Alors voilà, Ézéchiel, donc avec ce chapitre 37, vers le milieu du 6e siècle à Babylone, Ézéchiel, il a cette vision un peu fantasmagorique, il faut dire les choses comme elles sont, hein. Alors il ne faut pas se tromper, ce n'est pas de résurrection individuelle dont il s'agit, mais d'une résurrection du peuple qui est dispersé et inexistant, qui est perdu, il est mort. Ces os secs qui sont éparpillés vont se rassembler, puis les corps se reformer. En fait, c'est le peuple qui sera reconstitué. C'est ce que dit le prophète. C'est une promesse folle, un espoir insensé pour les Hébreux, qui sont à ce moment-là, vaincus, écrasés, exilés aux quatre coins du monde de l'époque. Et donc, Israël n'existe plus. Et pourtant, Ézéchiel, avec cette vision, il a eu raison. Israël va se reformer après l'édit de Cyrus en 538 qui autorisera les Hébreux à rentrer chez eux. Voilà, ce récit, j'aimerais qu'il soit notre récit d'introduction, car il préfigure la foi en la résurrection. Hein, c'est un message d'une espérance folle qui se fait réalité. Je crois que c'est l'esprit de Pâques, de naissance et de renaissance, de passage d'épreuve et de vie qui se trouve inscrit dans cette vision d'Ézéchiel. Alors, chers amis, frères et sœurs, que des visions comme celle d'Ézéchiel vous habitent. Que notre culte soit dans le prolongement de cette vision, plein d'espérance pour tout le monde. Soyez les bienvenus des quatre coins de France. Que la grâce et la paix vous accompagnent toutes et tous, tels que vous êtes avec vos questions, vos doutes et vos certitudes. Je vous invite à prier Dieu. Père, merci pour la fête de Pâques, pour la vision d'Ézéchiel. Moment de lumière dans les nuits du monde, témoignage de vie et d'espérance. La Bible qui porte ces révélations n'est pas un livre, mais c'est une rencontre. Et c'est une rencontre avec le texte écrit, avec notre esprit aussi. Et il sort quelque chose de nouveau de cette rencontre, de surprenant et d'insaisissable. Père, donne-nous de vivre pleinement cette rencontre avec toi quand nous lisons l'Écriture et ouvrons nos cœurs à cette Écriture. Amen. Voilà, je vous invite à partager maintenant notre texte qui nous servira de base pour notre prédication. Tout d'abord, dans le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, attendez, je ne me trompe pas, au chapitre 12, les versets 37 à 40 dans un premier temps, et puis au chapitre 13, les versets 17 à 22. Donc, Exode 12, 37, 40. Les fils d'Israël partirent de Ramsès pour Soukhot, environ 600 000 fantassins, des hommes sans compter les enfants. Tout un ramassis de gens monta avec eux, avec du petit et du gros bétail en lourds troupeaux. Ils firent cuire la pâte qu'ils avaient fait sortir d'Égypte. Elle leur donna des galettes sans levain, car elles n'avaient pas levé. Chassés d'Égypte sans pouvoir prendre leur temps, ils ne s'étaient même pas fait de provisions. Et puis, donc, un petit peu plus loin, donc, au chapitre 13, les versets 37 et 40. Pas de bêtises. Non, 17 à 22, excusez-moi. Chapitre 13, versets 17 à 22. Quand le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe. Dieu s'était dit, il ne faudrait pas que la vue des combats, le peuple renonce et qu'il revienne en Égypte. Dieu détourna le peuple vers le désert de la mer des Joncs. C'était en ordre de bataille que les fils d'Israël étaient montés du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car celui-ci avait exigé des fils d'Israël un serment en leur disant, Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur. Alors vous ferez monter d'ici mes ossements avec vous. Et ils partirent de Soukhot et campèrent à Étham, en bordure du désert. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête, colonne de nuée le jour pour leur ouvrir la route et colonne de feu la nuit pour les éclairer. Ils pouvaient ainsi marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu. Et puis, dans la nouvelle alliance, dans le livre de l'évangile de Jean, le chapitre 21, les 13 premiers versets de ce chapitre 21, c'est ce qu'on appelle l'apparition au bord du lac. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment les choses se passèrent. Simon, Pierre, Thomas, qu'on appelle Didyme, Nathanaël de Cana, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Et c'était déjà le matin lorsque Jésus vint se placer sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Et il leur dit « Et les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson ?»« Non », lui répondirent-ils. Et il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, vous en trouverez ». Ils le jetèrent et il y eut tant de poissons qu'ils ne pouvaient plus le ramener. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre « C'est le Seigneur ». Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre ceignit un vêtement car il était nu et il se jeta à la mer. Les autres disciples revinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. En fait, ils n'étaient pas bien loin de la rive, 200 coudées environ. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre ». Simon-Pierre remonta donc dans la barque et il tira à terre le filet que remplissaient 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez déjeuner ». Aucun des disciples n'osait lui poser la question « Qui es-tu ?» Mais ils savaient bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus vient, il prend le pain et il leur donne. Il fit de même avec le poisson. Ce fut la troisième fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il s'était relevé d'entre les morts. Père, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors, mes amis, je voudrais bien revenir avec vous sur ces textes, évidemment. Tout quitter. Pas si évident que ça, s'arracher à sa maison, à son décor, à ses amis, à ses habitudes. Hein, les habitudes qui sont là, qui nous ont incrustées dans le paysage aussi, hein, qui nous ont placés avec des tas de liens avec les uns et les autres. Partir de nuit, précipitamment, avec la peur et le sang de l'agneau qui a coulé, qu'on a mis sur le linteau des portes, pour éviter qu'il y ait la mort des premiers-nés qui va frapper l'Égypte. Voilà, partir. Quand on est un groupe hétéroclite, des descendants de Jacob, comme il dit dans le texte, et puis d'autres aussi qui viennent avec eux, il faut une très très grande confiance pour partir ainsi. Ou d'autres motifs très lourds, bien sûr. Hein, l'insupportable asservissement, par exemple, ou les exploitations éhontées. Et Dieu est là qui guide par sa lumière, finalement, tout ce peuple. Alors, il faut passer la mer des joncs, talonné par l'armée du Pharaon qu'on voudrait éviter à tout prix. Il faut passer par les déserts avec leurs pièges aussi, c'est ce que raconte l'Exode, hein, et le Lévitique, le Nombre, le Deutéronome. Il y a des ennemis, il y a la chaleur, il y a la faim, la soif, il y a les mirages, le désert. Passer ces péchards, ces Pâques pour les Hébreux. C'est une fête extrêmement intéressante, extrêmement importante. Du néant où ils étaient comme esclaves, comme personnes qui ne comptent pas, comme une masse indifférenciée, eh bien, de cette masse va sortir et se constituer un peuple, une nation, avec la loi qui sera donnée dans le désert au Sinaï par Moïse. C'est un épisode fondateur pour le peuple hébreu et pour nous. C'est un épisode fondateur qui soude et qui fait vivre. Parce que c'est d'un souffle de liberté incroyable que cette fuite hors de l'Égypte, hors de l'esclavage, de l'exploitation, pas question ici de regarder quelles sont les réalités historiques qui sont derrière tout ça. Ces textes sont très anciens et très symboliques, mais ils posent un problème éternel. Dire l'exploitation des hommes, la misère des hommes est quelque chose d'insupportable. Dire, et l'Exode nous dit la liberté, liberté par rapport à toutes les formes d'idolâtrie qu'il y a. C'est le terme même de la loi, je t'ai libéré de l'esclavage. Dire liberté qui va s'organiser autour d'une loi qui pose finalement un certain nombre de valeurs humaines intéressantes sur lesquelles on pourrait revenir pendant des jours et des jours finalement. C'est un texte qui est toujours valable pour nous autres aujourd'hui, les Hébreux et les Juifs nous l'ont transmis, ils le fêtent aujourd'hui et nous le fêtons avec eux. Mais Pâques, c'est aussi le passage pour nous de la mort à la vie, non seulement pour le peuple, qui est ce thème qui sera repris par les grandes visions des prophètes, comme celle d'Ézéchiel, mais le passage de la mort à la vie par Jésus, pour Jésus-Christ. C'est un événement qui est complètement incroyable. C'est le signe des signes, finalement. C'est le monde qui, là, n'est plus spécialement libéré des dictatures, des manipulations, mais qui est libéré de la mort. C'est-à-dire, et vous me direz, mais on meurt toujours, peut-être. Certes, certes. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que la mort est un absolu. Tout le monde vient au monde, va vivre avec des vicissitudes, des joies, des peines, et puis tout le monde va mourir. Mais il suffit qu'un seul, échappe à la mort pour que l'absolu soit détruit, pour que l'absolu ne soit plus un absolu par définition. L'absolu ne peut pas être avec une exception. C'est pour ça que cette histoire de Pâques à partir de Jésus-Christ devient aussi quelque chose d'extrêmement important pour le monde et pour la liberté. Alors ils sont là, ces disciples, ils sont quelques-uns. Peu de jours après la résurrection. Le texte ne dit pas exactement combien de jours, peut-être 5 ou 6, 3 ou 4, enfin, peu importe. Ils sont là, une bande d'amis finalement, de pêcheurs du bord du lac. Ils se connaissent bien, ce sont des amis de toujours visiblement, Pierre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, Nathanaël et quelques autres. Et puis ces deux disciples inconnus qu'on retrouve dans l'évangile de Marc, qui sont cités aussi évidemment sur la route d'Emmaüs. Ils sont là quelques-uns, là, et ils ont constaté cette résurrection, ils l'ont vécu finalement, ils n'étaient pas présents au moment même de la résurrection, mais ils en constatent les effets, évidemment. Et on peut tous dire sur la résurrection, et des livres ont été écrits là-dessus. Est-ce que c'est la réalité d'un quelqu'un qui était mort, qui s'est réveillé entre les morts? Est-ce que c'est un choc psychologique qui fait que, eh bien, il y a une vision qui s'impose? Est-ce que c'est de la mystique qui est là? Voilà, et ainsi de suite. On pourrait trouver des tas d'explications sur ces événements qui ont suivi la crucifixion et que nous appelons Pâques et qui commencent deux ou trois jours après la mort de Jésus. Les femmes en avaient parlé de cette résurrection. Et puis, ces deux compagnons, là, que j'ai cités tout à l'heure, l'ont vécu sur la route d'Emmaüs. Et évidemment, Cléopas et son ami, qui n'a pas de nom, évidemment. Ils l'ont vécu aussi en Galilée, à plusieurs, et même l'apôtre Paul dit à un moment donné qu'ils sont 500 à avoir eu une vision du Christ ressuscité finalement. Mais voilà. Voilà que le temps passe quand même. Vraiment. Que s'est-il passé exactement? Quand le temps fait son œuvre, on veut dire, et que le temps efface ou exagère le souvenir, qu'est-ce qui s'est passé? Véritablement. Et puis il est plus là. Les visions, les rencontres, tout cela, les partages, tout ça, ça n'est plus. Et cette équipe là qui se trouve sur le lac de Tibériade, ses amis, ses pêcheurs, qui se connaissent bien et qui se mettent ensemble pour être plus efficaces, ben ils sont là. Ils sont là avec cette question. Et avec cette question du sens, et cette question un petit peu angoissante, mais est-ce que ça va continuer? Est-ce que ces visions vont s'arrêter? Est-ce qu'on est complètement abandonné ou pas, finalement? Parce que c'est bien sympathique de parler de la résurrection. Mais si ça s'arrête là, il y a 2000 ans, à peu de choses près, finalement, c'est pas très très intéressant pour notre existence, à la limite. On pourrait se poser cette question. Alors, ils sont là avec leurs questions et ils retournent au quotidien, hein, après des mois d'aventures fabuleuses, de combats, de discours, de moments partagés avec le maître. Ils ont été témoins de guérisons, de prédications formidables sur la permanence du royaume. Alors, c'est vrai, il n'est pas mort. Il n'est pas mort et il est vivant et chacun l'a aperçu à sa manière. Mais il n'est pas là. Il n'est quand même plus là. La monotonie des jours revient. Partir sur le lac de Tibériade, chercher du poisson, le ramener pour pouvoir vivre. Et puis il y a ces nuits de travail et ces tristesses d'une nuit qui n'a rien produit. On revient bredouille. Car ils sont là, dans cette situation, ces disciples. C'est la nuit. Rien n'a été attrapé. Il va falloir rentrer chez soi. Il n'y aura pas de quoi manger, finalement. Il va falloir accoster au petit matin dans le clair-obscur du jour qui vient, avec les dangers de l'accostage dans la nuit, avec les filets vides, vides comme la vie. Dans l'état de Marie-Madeleine, au matin de Pâques, qui elle-même était complètement vidée, exténuée, retournée dans un deuil insupportable, comme bon peut l'être à la mort d'un proche, vide comme ses compagnons d'Emmaüs sur la route, hein, qui ressassent les événements et qui se questionnent petit à petit et qui progressent vers la lumière de l'auberge. Et voilà le ressuscité. Voilà le ressuscité, pourtant il est là sur la plage. Personne ne le reconnaît. C'est incroyable. Jésus, c'est assez curieux, n'a jamais été reconnu par ses disciples lorsqu'il a été vu après la résurrection. Il a fallu quelque chose de plus. Plus que cette corporéité, je dirais matérielle, à laquelle nous sommes attachés, parce que nous sommes peut-être trop matérialistes dans nos vies. Non, il faut quelque chose qui sonne comme un réveil. Et ce quelque chose qui sonne comme un réveil, c'est une question au bord du lac, une question. Et les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson? Ah, question. Cette question, quand je l'ai lue pour écrire cette prédication, je me suis dit, mais Jésus a posé souvent une question à celles et ceux qu'il a rencontrés. Et je pense en particulier à Bartimée. Lorsque Jésus rencontre Bartimée, et il lui dit « Mais que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus connaît la réponse, évidemment. Quand on pose une question comme ça à un aveugle, c'est évident que la réponse de Bartimée, hein, que je retrouve la vue, est quelque chose d'assez évident. Mais Jésus pose la question. Il pose la même question d'ailleurs au paralysé, d'ailleurs à Bethsaïda. Et que veux-tu que je fasse pour toi? Ben, Réaliser explique un petit peu sa vie. Mais à chaque fois que l'ange vient remuer l'eau, il n'y a personne pour m'amener dans la fontaine. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas un peu de poisson? Jésus va créer par cette question une prise de conscience. C'est-à-dire, il va aller au centre du problème. Vous n'avez pas de poisson? Et précisément, ça pour vous, c'est votre souci aujourd'hui, cette nuit-là où il n'y a rien, où le filet est vide, où la vie est vide, c'est-à-dire où on est dans le non-sens, dans la nuit qui s'achève, c'est-à-dire qui s'achève mal. C'est ça qui est votre problème, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Or Jésus sait très bien qu'il a du poisson lui-même, évidemment. Et de ce côté-là, il n'y a aucun problème, puisqu'il y aura un poisson sur la berge, sur le feu, sur la braise qui est là, évidemment. Et Jésus sait très bien qu'il n'y a pas de poisson dans le filet des pêcheurs. Mais si la question est là pour aller les chercher, pour les réveiller, pour qu'ils prennent conscience de leur être, de leur problème, de leur manque. La réponse est laconique, non. Vraiment, le discours des disciples est réduit à sa plus simple expression. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont comme engourdis, durés, ensuqués, comme on dit dans le midi, incapables de réaliser ce qui se passe. Peut-être sont-ils fatigués aussi, comme l'était peut-être Marie-Madeleine, comme je l'ai signalé tout à l'heure, fatigués au petit matin après une nuit blanche de deuil. Mais nous autres, combien de fois ne le sommes-nous pas dans des moments de deuil, dans des difficultés extrêmes? Je pense à ceux qui apprennent qu'ils sont mis au chômage et qui doivent rentrer chez eux avec la mauvaise nouvelle. Je pense à ceux qui sont atteints de maladies, ceux qui sont frappés par un dépit amoureux, par des séparations, et tant de choses qui sont là, qui rendent la vie vide, avec des pertes de sens, finalement, de l'absurde. Les disciples suivent quasiment machinalement cette parole. hein, comme si ils étaient presque drogués, on dirait. Et c'est cette parole qui les interpelle, pourtant, et ils jettent le filet ailleurs, sur l'autre côté de la barque. Ça aussi, c'est intéressant. Nous sommes dans l'évangile de Jean, et comme tous les évangiles, ces textes sont extrêmement symboliques. Les termes qui sont utilisés ont du poids, surtout encore plus peut-être chez Jean que chez les trois autres synoptiques. Ailleurs, cherchez ailleurs, cherchez ailleurs, n'abandonnez pas. On est à la fin de l'histoire, on est au petit matin. Toute la nuit, ils ont travaillé, il reste plus de temps, ils ne sont plus qu'à 100 mètres de la berge, dit le texte biblique de Coudée. Hein. Mais cherchez ailleurs, quand même. Ayez, n'abandonnez pas, véritablement. Et ça, c'est aussi très symbolique. Je crois que pour toutes celles et tous ceux qui sont au bout de la route, avec une vie qui s'est vidée, avec une vie qui a perdu son sens, avec une vie qui est une traversée de la nuit, finalement, il est intéressant d'entendre une parole qui dit, mais cherchez ailleurs, cherchez ailleurs. Et alors là, le filet est plein, au point de ne pas pouvoir le ramener. Je pense que c'est assez fantastique, parce que là, les disciples, avec cette pêche incroyable, vont vivre un écho des prédications qu'ils ont entendues et des moments qu'ils ont vécus. Je pense à la prédication du royaume dans les paraboles. Il y a une surabondance du royaume qui est décrite, hein, le grain de blé qui va en donner 100 sur sa tige, la petite graine du jardin qui va grandir, devenir un arbre qui accueille tous les oiseaux du ciel, les dizaines et dizaines de litres de vin qu'il y a aux noces de Cana, et ainsi de suite. Le royaume avec sa super abondance, sa multiplication des pains aussi, où une légion est capable d'être nourrie avec deux poissons, hein, et cinq morceaux de pain, incroyable, c'est le signe. Le signe du royaume qui est révélé par la parole du Christ. Alors ça résonne en eux automatiquement. Et il est là, il est là, il est même là après, il est toujours là avec ses disciples, avec ses appels et avec le royaume qui est toujours présent, finalement. C'est cette parole du Christ qui va conduire à des gestes nouveaux, finalement, hein, qui fait que la lumière brille comme le feu de l'Exode, comme une présence, finalement. Les braises avec le poisson et le pain. Et ces 153 gros poissons, tout devient symbole là-dedans, finalement. Hein, l'expression d'une réalité cachée, hein, qui relie au ressuscité et à la vie. Parce que quand même, je veux dire, ce partage est assez fantastique quand on y regarde un peu plus près. Il y a là le pain et le poisson. Il y a là le pain. Le pain, évidemment, c'est la nourriture essentielle pour les hommes de l'époque, encore que sur le bord du lac de Tibériade, le poisson est évidemment est quelque chose d'essentiel, ça va de soi. Mais le pain, je trouve que c'est assez formidable. Il a fallu du temps, de la patience, du travail pour arriver à avoir ce pain. Et donc c'est le travail des hommes qui est apporté là. Et souvent dans les Saintes Cènes, on le dit souvent, hein, que le pain, ben, nous l'avons apporté et c'est le fruit de notre travail. Et puis il y a le poisson. Vous savez que le poisson, ça se dit ictus en grec, c'est l'anagramme de Ius Christos Theou Ios Soter, excusez-moi de parler en grec, mais c'est Jésus-Christ, fils du Dieu Sauveur. Et tout, c'est intéressant, ce repas au bord du lac, où il y a d'un côté ce que les hommes apportent, c'est-à-dire le pain, le fruit de leur travail, de leurs espoirs aussi pour beaucoup, parce qu'on aimerait bien que tout le monde puisse avoir du pain à chaque repas. Et puis de l'autre côté, il y a le poisson qui signifie Dieu qui vient, comme si c'était une rencontre finalement que ce repas, hein, finalement. Et puis ces 153 poissons qui sont là, hein, c'est 153, on a beaucoup écrit là-dessus. Certains théologiens disent, bon, il devait y avoir pas loin de 153 nationalités différentes dans l'Empire romain. Et puis il y a une note de la Tob qui dit, dans l'Antiquité, on pensait qu'il y avait 153 espèces de poissons. Et ça veut dire quoi, ces réflexions de ces gens qui travaillent l'écriture? Eh bien, c'est que ça signifie tout simplement que là, il y a le monde entier qui est là. Ils sont tous là, finalement. Hein. Il n'y en a pas 152 poissons, mais il y en a 153. Toutes les espèces sont là, hein, finalement. Et ça signifie qu'il y a là le travail de l'Église, le travail de l'Église qui doit se tourner vers le monde, qui doit aller toujours ailleurs pour aller chercher, finalement. Cette Église qui est signifiée aussi par la barque, Ah, la barque, hein, pourquoi représente-t-elle l'Église? Peut-être parce qu'elle est ballottée par des flots, qu'elle n'est pas toujours très très sûre d'elle-même. Mais surtout, il y a le mât avec qui représente la croix, finalement. Et c'est pour ça qu'on va retrouver le poisson d'ailleurs et la barque avec le mât toujours évidemment dessiné sur les murs des catacombes hein, comme symbole de la présence de l'Église et de la présence du Christ. Alors là, c'est l'Église avec un E majuscule qui est dévoilée, si je puis dire, véritablement. Là, il n'y a pas d'institution, évidemment, il n'y a pas de dogmatique, absolument aucune, rien n'est dit de tout cela. Il y a simplement cette parole qui a interpellé ces pêcheurs du lac, c'est cette parole qui réveille, qui fait vivre, finalement, une parole qui réunit, qui fait communauté de gens libres, divers et ouverts, finalement. De gens qui vont essayer, qui vont s'arracher à leur non-sens, qui vont s'arracher au train-train quotidien, hein, mais qui vont aller vers l'ailleurs, finalement. Et c'est le monde avec ses poissons. C'est-à-dire que c'est nous, aujourd'hui, d'une certaine manière, nous, en tant que monde, et nous, en tant qu'Église, qui sommes présents dans ces passages. Je trouve que c'est un message qui se partage. Il se partage facilement avec tout le monde, mais il se partage évidemment dans la lecture biblique, dans la prière, la prédication, dans le travail de la pêche et dans le partage du pain, finalement. C'est l'Église qui est en marche là, c'est le dernier passage de l'Évangile de Jean et c'est peut-être l'envoi final qu'il y a dans cette révélation après la mort et la résurrection de Jésus. Certainement, il est toujours là. Certainement, il est toujours là. Bien sûr. L'avez-vous réalisé? Qu'il était présent quand, dans un moment difficile, un proche vous a appelé et vous a sorti de la torpeur. Avez-vous senti sa présence à vos côtés lorsqu'il portait avec vous votre souffrance? Peut-être que certains ont souri avec lui en voyant des enfants jouer dans un parc ou passant dans la rue, je ne sais pas. Avez-vous constaté des moments de plénitude dans des événements qui parfois sont très très simples, tant et tant d'instants? Où il était là, bien vivant, pour déchirer le voile, pour faire entrer dans la plénitude du royaume, il nous dirait, les enfants, il a dit autrefois, il nous le dit encore aujourd'hui, et il le dira toujours. Amen. On va écouter Handel.
Thank you.
Voilà, nous sommes une trentaine d'années après la mort de Jésus et Paul vit toujours de sa présence, l'apôtre des gentils, comme on dit, des païens. Et voici ce qu'il nous dit dans la première lettre aux Corinthiens. Moi, voici ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe après le repas en disant, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang, faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. À la suite des apparitions de Jésus, à la suite de la dernière scène, du dernier repas, à la suite de Paul, nous nous trouvons réunis pour prolonger ces instants particuliers, ces moments de plénitude qui nous disent la présence du Christ. Un jour, au bord du lac, nous dit l'évangile de Jean, Jésus a partagé du pain et des poissons. C'était après sa mort, un moment du royaume, au petit matin. Et cela nous dit que la lumière l'emporte sur la nuit. Père, quand nous partageons la scène, le pain et le vin, que la lumière de Pâques soit là pour nous guider jusque sur le rivage où tu nous attends et vers lequel tu nous accompagnes. Que le partage de ce jour, signe du salut universel, soit ouvert au monde. Nous apportons le pain et le vin sur nos tables, mais aussi nos questions, interrogations et attentes. Nous apportons la joie de te savoir en esprit avec nous pour vivifier, ranimer la flamme de notre vie. Merci pour les signes de ta présence dans la simplicité d'un peu de pain et d'un peu de vin. Amen. Le pain que nous prenons là, c'est le signe du corps du Christ qui a été donné pour le monde. L'être humain est véritablement être humain lorsqu'il est l'être pour les autres. L'être humain est véritablement être humain lorsqu'il porte en lui une dimension qui le dépasse infiniment et qui nous dit la permanence du royaume. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, c'est la coupe au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le sang d'une alliance nouvelle, d'une vie sans cesse renouvelée, d'une vie qui est éclairée par la lumière de l'Esprit, par un peu de braise au bord du lac, par un appel, par un petit peu de joie. C'est l'alliance qui nous fait voir le monde avec les yeux du royaume et qui nous permet de le découvrir au cœur même de nos vies. Et je vous invite à partager ce pain et ce vin en pensant à toutes celles et tous ceux que vous associez à ce geste et en vous joignant à ce geste les uns les autres. Et pendant ce moment de partage, je vous invite à entendre, comme il se doit, comme dimanche dernier, du reste, et c'est tout à fait normal, hein, le choral de À toi la gloire. Voilà, je vous invite à prier Dieu. Père, merci pour ce moment de partage. Merci pour l'esprit qui nous fait saisir ta présence dans le monde, qui nous fait saisir que notre partage, tout symbolique qu'il est, n'en est pas moins plein de force, de vigueur. Merci pour nous réveiller comme tu as réveillé de leur torpeur ces disciples sur le lac. Merci pour le sens que tu donnes à nos vies, même lorsque nos vies partent à la dérive. Et Père, malgré des tas de difficultés qui peuvent nous assaillir aujourd'hui, nous sommes dans la joie de la fête de Pâques, de la résurrection. Résurrection, c'est un mot qui fait rêver. Il rime avec guérison. Il s'accorde si bien avec dignité et justice. Cette joie de Pâques, Père, nous voulons la partager avec le monde entier et surtout avec les malheureux. Qui sont-ils? Tous ces gens qui, eux aussi, partent à la dérive et voient leur vie comme étant inutile, n'ayant aucun sens, perdu. Qui sont-ils, tous ces malheureux, qui errent dans nos sociétés mondialisées, des exploités, rejetés, des malades, des gens chargés de fardeaux insupportables? Bénis-les tous, Seigneur. Ils sont nos frères, tout autant que ceux de nos familles. Parents, amis proches, ceux qui comptent le plus pour nous, nous te les remettons sous ta protection. Et puis nous pensons aussi aux puissants du monde, à ceux qui ont les leviers de commande, comme nous disons. Délivre-les de leurs orgueils et du mal qui peut les posséder, afin qu'ils soient vraiment au service des plus humbles, au service des plus pauvres. Bénis et protège ta création, Père. Elle est fragile et elle est belle, surtout en ce jour de printemps. Elle est le lieu de ta révélation, le lieu du royaume. Puissions-nous y travailler dans le bon sens pour qu'elle soit en plein épanouissement. Nous avons tant et tant de choses à te remettre, Père. Toi seul es capable de les accueillir. Et dans le secret de nos vies, de nos cœurs, dans le silence, nous te remettons toutes nos intentions de prière. Et avec toutes les églises du monde, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis qui êtes encore à l'écoute, je voudrais vous dire qu'après la bénédiction finale et le chant qui suivra la bénédiction, je vous ferai une ou deux annonces. Donc ne partez pas tout de suite après la fin du chant final. Voilà. Donc, je voudrais, donc, je répète ce que je dis parce que j'étais en sourdine, m'a dit la voix off. Il y aura des annonces après le chant final, après la bénédiction. Donc, ne partez pas tout de suite après. Voilà. Chers amis, je vous invite à vivre ce moment de bénédiction. C'est un moment où on dit du bien. On dit du bien de Dieu, que Dieu soit béni véritablement, parce qu'il est le ressuscité, parce qu'il est le porteur d'un message incroyable de vie et d'espérance pour tout le monde, et même pour le dernier des derniers, qui a la même valeur que le premier des premiers. Il est béni, Dieu, parce que c'est un Dieu qui se révèle dans l'amour. Et Dieu, qui se révèle dans l'amour, nous bénit les uns et les autres. Oui, soyez bénis de Dieu. Qu'il vous garde, qu'il vous guide, comme le feu de braise a pu guider les apôtres sur ce lac de Tibériade. Oui, qu'il vous guide comme il a guidé les Hébreux tout au long du désert, tout au long de l'Exode. Qu'il vous guide dans vos vies, qu'il les éclaire et qu'elle donne du sens à vos vies. C'est Pâques, c'est de l'espérance, c'est de la joie. Allez en paix. Amen. On va écouter Confie à Dieu ta route. Mais écoutez, comme vous êtes vraiment formidable, vous êtes toujours encore à l'écoute, je voudrais vous faire passer quelques annonces. Alors, pour ceux qui voudraient entendre la prédication sur le fameux Voici l'homme, Ecce Homo, il faudrait passer par YouTube et là rejoindre le site qui s'appelle Trois paroisses de Châtenay-Malabry. Alors trois, je crois que c'est en, je sais pas, je crois que c'est en chiffres, hein, et non pas en lettres. Bon, enfin bon, il faut peut-être tenter les deux, hein, je ne sais pas. Donc les trois paroisses de Châtenay-Malabry.
C'est en chiffres.
C'est un chiffre, hein, c'est ça. Alors, trois paroisses de Châtenay-Malabry avec le trait d'union entre Châtenay et Malabry, hein, n'oubliez pas. Voilà. qu'est-ce que je veux dire d'autre? Alors, ça, c'est une chose. Autre chose, notre vie d'église, elle continue. Elle continue parce que le conseil presbytéral va chercher à se réunir comme on fait là maintenant, là, parce que ça continue, hein. On va essayer de réunir nos idées pour voir comment faire pour vous rejoindre les uns les autres, qu'est-ce qu'on va faire à la rentrée quand toutes ces histoires de confinement seront finies, et surtout qu'il n'y aura plus de malades, évidemment. Donc, tout ça, il faut le prévoir si on est un peu raisonnable, et puis peut-être un tas d'autres questions. Et puis, comme certains le savent, j'ai quand même fait quelques études d'économie, et donc vous n'échappez jamais dans mes cultes dominicaux à l'offrande que j'aime bien vous présenter. Je voudrais vous dire ceci, les offrandes ne rentrent plus, hein, pratiquement pas. Ou très peu. Un grand merci à ceux qui se sont mensualisés, évidemment, et à ceux qui ont envoyé des chèques, évidemment, mais on est très très loin du compte. Et si vous voulez participer à la vie financière de l'Église, vous pouvez le faire, parce que comme vous ne pouvez pas acheter de chocolat, puisque les magasins sont fermés pour cette Pâque-ci, vous pouvez mettre l'argent du chocolat dans la banque, dans l'Église, par exemple. Hein, mais on peut, bon, j'espère que vous m'entendez bien là.
Et on t'entend bien et on peut recommander le virement bancaire d'ailleurs, c'est très pratique.
Voilà, alors vous pouvez faire un virement bancaire pour ceux qui ont les coordonnées et ils se trouvent dans le dos du Halo 62, notre journal de paroisse. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez envoyer des chèques à l'ordre de l'église réformée de Robinson, donc au 36 rue Jean Longuet, au Châtenay, ou bien chez notre trésorière qui est encore un peu trésorière, qui est pour quelque temps, donc chez Nicole Drossin, D-R-A-U-2-S-I-N, hein, D-R-A-U-2-S-I-N, 19 rue Jules Graveraux, G-R-A-V-E-R-E-A-U-X. Voilà, 19 rue Jules Graveraux, 94-240, L'Haÿ-les-Roses. Voilà. Hein, mais bon, si j'étais un petit peu rapide, vous envoyez des chèques à l'église réformée de Robinson, rue Jean Longuet, il n'y a pas de problème. On les recevra. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite de très très bonnes Pâques. J'espère que vous aurez quand même un peu de chocolat. Hein, bien sûr, parce que je suis très gourmand et que il faut être un peu gourmand. C'est une manière de reconnaître à Dieu sa création en la goûtant avec modération, bien évidemment. Mais passez de bonnes fêtes de Pâques. Profitez de ce beau temps. Je veux dire, même si on peut pas beaucoup sortir, mais dans tous les cas, un grand merci pour la communauté que vous formez, qui est vraiment porteuse d'espérance, surtout lorsqu'on est un petit peu isolé ainsi. Donc, j'espère vous voir dimanche prochain, ou peut-être pour certains d'entre vous, si on peut les joindre pour une étude biblique téléphonée comme ça, je ne sais pas, je voulais voir ça avec Antoine Jaulme, avec le conseil, etc. Bon, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, notre église elle est bien vivante hein, quand même. Voilà, donc on ne va pas se laisser aller à la dérive sur le lac, mais on va aller pêcher ailleurs et d'une autre manière. Très bon dimanche à toutes et à tous.